Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver. Quel bon temps de louange, hein, n'est-ce pas? Dans nos églises, on parle beaucoup d'espoir. On parle beaucoup d'espérance. Et c'est vrai. C'est des choses importantes. C'est la direction que l'on veut prendre. Mais il y a aussi une réalité, c'est que dans notre marche chrétienne, on peut parfois faire face à des moments de désespoir. C'est la situation par laquelle passent deux disciples de Jésus, dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Ils ont suivi un homme dont ils étaient sûrs qu'il était le Messie. Ils en étaient certains, mais au lieu d'être un Messie conquérant, chef militaire, venu pour délivrer Israël de l'envahisseur romain, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été arrêté. Il a été jugé, il a été crucifié. Leur chef militaire a été tué. Il est mort sur la croix, vendredi soir, un peu avant la nuit. Et nous sommes dimanche et depuis ce matin, on entend des rumeurs. Peut-être que vous les avez entendues aussi. Le corps qui avait été placé dans le tombeau semble avoir disparu. Tiens donc. Il serait même question d'anges dans l'histoire. Des anges que les autres disciples ont vus, apparemment. Mais bon, tout ça, ce sont que des rumeurs. Pour les deux disciples désespérés dont je parle, eh bien, oui, ils ont entendu ces histoires, mais ils ont quand même préféré partir de Jérusalem. Après tout ce qui s'est passé, c'est trop dur de rester là. Ils prennent la direction d'un petit village. Peut-être que vous avez entendu parler de ce village, il s'appelle Emmaüs. Et voici ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 24, verset 13. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Cette situation que traversent les disciples, c'est quelque chose que l'on peut tous vivre un jour. On avait fondé de grands espoirs. On était sûrs et certains de la suite. Mais finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Finalement, les choses se sont passées d'une manière totalement différente de celle dont on avait prévu. Alors on quitte tout. On préfère partir, arrêter les frais, stop! Mais quand même quand on part, ça continue de nous impacter, on continue d'en parler, ça continue d'influencer nos vies. Emmaüs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire source chaude. Alors dit comme ça, on pourrait se dire, ok, source chaude, ça ne me parle pas trop. Mais dans le contexte de l'époque, ces sources chaudes, on pourrait parler aussi de sources thermales, c'était des choses qui prenaient place dans le domaine de la guérison. Et en fait, à des moments, on fait exactement comme les disciples. On cherche une guérison ailleurs. Comme si on pouvait trouver un remède au désespoir dans un lieu, auprès d'une personne, dans une méthode. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. C'est que notre Dieu ne nous laisse pas dans notre situation. Quel que soit le chemin que nous avons emprunté, il vient à notre rencontre. Amen. Alors lisons la suite. On est toujours dans Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais, et ce mais il a son importance, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Les disciples ne le savent pas, ils n'ont pas compris, mais Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il les accompagne, même s'ils n'en ont pas conscience. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ah, ça peut nous paraître complètement fou, cette histoire-là, mais C'est bien ce qu'ils vivent. Comment peuvent-ils ne pas reconnaître Jésus? Mais ça nous arrive aussi, hein. Les épreuves par lesquelles nous passons nous rendent parfois aveugles et sourds à ce que Dieu fait et à ce que Dieu dit. Au point que même quand Jésus est à côté, qu'il parle avec nous, nous pouvons être comme les disciples, au point de ne pas le reconnaître. Le désespoir, malheureusement, a tendance à nous boucher les yeux et les oreilles. Mais Jésus vient nous rendre la vue et l'ouïe. On pourrait se dire, ouais, mais il faut quand même attendre un moment, il faut se poser, tout ça, mais est-ce que Jésus a besoin d'attendre un moment de calme pour venir vers nous? Est-ce que Jésus a besoin d'attendre que l'on prenne un moment pour réfléchir, pour venir nous parler? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une question piège, hein. Non, Jésus vient à notre rencontre, même quand nous sommes en mouvement, même quand on est chargé, même quand on a des vies bien remplies, comme on en a tous. Jésus n'attend pas que notre vie se vide d'autre chose, il vient déjà à notre rencontre, et même quand on a pris la mauvaise direction. Ce qui se passe avec les disciples en route pour Emmaüs, eh ben, c'est exactement ça. Ils sont dans le désespoir, ils partent, mais malgré la mauvaise direction qu'ils ont prise, Jésus vient à leur rencontre. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit dans la Bible. Il y a plein de moments au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, où on voit Dieu venir à la rencontre de personnes qui ne s'y attendaient pas du tout. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle à des personnes qui étaient sur le chemin et qui n'avaient pas spécialement prévu de s'arrêter pour parler avec lui. Mais lui, il est quand même venu à leur rencontre. On va voir trois exemples. Mais déjà, est-ce que, comme ça, vous avez quelques exemples en tête? Gédéon peut en faire partie, c'est vrai. C'est pas de mes exemples de ce matin, mais ça aurait pu. David, j'ai entendu Moïse, c'est ça? Élie. Ah, ça commence à devenir intéressant. J'en ai une partie. Mon premier exemple, c'est celui de Moïse. On peut lire dans Exode chapitre 3, verset 1, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. En gros, hein, quand on est berger, on fait parcourir différents trajets aux moutons, de pâturage en pâturage. Mais le but, ce n'est pas de rester trop longtemps au même endroit, puisque les moutons tondent la pelouse et au fur et à mesure, il faut aller sur le gazon suivant. Hein. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Moïse fait le tour, en fin de compte, de différents lieux, et là, il arrive à Horeb. Et qu'est-ce qui se passe à Horeb? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc, pour arrêter Moïse sur le chemin, Dieu a dû déclencher un incendie surnaturel. C'est que Moïse n'avait pas prévu d'être hyper attentif. Il fallait quelque chose de vraiment voyant, visible. Vous voyez, il fallait attirer son attention. Et Dieu l'a fait. Et si on lisait la suite du texte, eh bien, on verrait comment Moïse refuse poliment, au fur et à mesure, toutes les propositions de Dieu. Ah non, pas moi. Non, mais je peux pas, parce que ceci, parce que cela. Non, mais ma bouche est engourdie. Vous connaissez l'histoire, hein? Moïse n'avait pas vraiment prévu de suivre ce que Dieu lui demandait. Pourtant, à la fin, quand même, Moïse accepte de sortir de sa situation d'exil, parce que c'était vraiment ça, pour entrer à nouveau dans le plan de Dieu. Il a accepté de quitter le plan de désespoir dans lequel il était depuis 40 ans, pour entrer sur un nouveau chemin rempli d'espoir. Et on sait que, waouh, les 40 années qui vont suivre, ça va être quelque chose. Un deuxième exemple. Un exemple aussi que j'ai entendu, l'exemple du prophète Élie. On est dans 1 Roi chapitre 19, verset 3. Donc, c'est juste après que Élie ait fait un coup d'éclat absolument incroyable. Il a demandé à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour consumer son offrande. Et suite à ça, il a égorgé tous les prophètes idolâtres de la reine idolâtre, hein, et qui n'était pas du tout contente et qui a juré de le faire mourir. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Je pense qu'on aurait tous fait pareil. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie. Alors lui, il voulait bien parler à l'Éternel, mais pas pour écouter ce qu'il pouvait avoir à lui dire. Il avait une demande bien précise, et cette demande, c'est celle d'un désespéré, au point de demander la mort. Il ne peut plus marcher, il est trop fatigué, il est devenu plus facile pour lui de mourir plutôt que de continuer. Même en étant chrétien, parfois on peut passer par ces extrémités-là. Mais que fait Dieu? Est-ce qu'il laisse Élie dans cette situation? Est-ce qu'il lui dit: Ok, pas de souci? Non. Et non. Dieu ne laisse pas Élie dans cette situation. Il ne le laisse pas sur ce chemin de mort. Deux fois, Dieu lui envoie un ange. Lui apporter un petit casse-croûte, de l'eau et un gâteau pour manger. Deux fois. Waouh, c'est pas mal. Et la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Élie se leva, mangea et but. C'est bien pour quelqu'un qui veut mourir, déjà de reprendre le moment de boire et de manger, c'est hyper important en fait, hein. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, pas mal, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Il est revenu à nouveau dans la présence de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à lui d'une façon extraordinaire. Il va même, en plus, lui révéler autre chose d'intéressant. Il va lui montrer qui va être son successeur. Élisée, ça aussi, c'est un personnage incroyable. On en reparlera une prochaine fois. Mais Dieu nous révèle des choses dans sa présence. On sort du désespoir et il nous amène sur un nouveau chemin d'espoir. On sort de l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau Testament. Un personnage célèbre, Saul de Tarse. Le futur apôtre Paul. Mais au départ, ce n'est pas du tout un apôtre, hein. C'est un persécuteur, un tueur. On est dans Actes chapitre 9, verset 3. Il a obtenu du grand prêtre à Jérusalem d'avoir des documents pour emprisonner tous ceux qui suivent Jésus. Et il se dirige vers une ville qui s'appelle Damas. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Saul était convaincu qu'il suivait le bon chemin. Il y croyait fort. Il croyait que persécuter les chrétiens, c'était la bonne manière de faire. Et il ne croyait pas en Jésus. Il s'était même fait un devoir de persécuter toute personne qui croyait en Jésus. C'est extrême, hein? Mais quand Jésus s'est révélé à lui, ça a tout changé. Et 3 jours après ces versets, Saul va se faire baptiser. Il va même commencer à prêcher dans les synagogues la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà le genre de transformation extraordinaire que la rencontre avec Dieu fait. Et Jésus vient de la même manière à la rencontre des disciples d'Emmaüs. Et voici un peu comment se passe la discussion. On va le lire. On est de nouveau dans l'évangile de Luc, chapitre 24 et verset 17. Jésus leur dit: De quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent. l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu des anges, qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Bon, en fait, vous avez compris, hein? Ils connaissent déjà toute l'histoire. Ils savent tout. Ils sont même au courant de la résurrection, mais ils n'y croient pas. Tout semble si évident, mais ils ne se rendent pas compte de cette évidence. Et bien souvent, c'est notre cas aussi. En réalité, eh bien, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Mais dans notre situation, c'est comme si ça n'avait plus de valeur, en fait. Mais là encore, Jésus ne nous laisse pas. Il continue patiemment de nous encourager et il va encourager les disciples. Alors Jésus leur dit: Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, en gros tout l'Ancien Testament, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Une étude biblique avec Jésus. Waouh! Ça donne hyper envie, hein. Je ne sais pas vous, mais Jésus leur enseigne patiemment. Ils étaient dans les ténèbres du désespoir, mais petit à petit, la lumière de l'espoir prend place sur leur chemin. C'est exactement ce que nous dit le psaume 119. Oh, c'est une parole que vous connaissez par cœur. C'est le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, exactement. Alors c'est vrai, on ne connaît pas toujours clairement la suite du chemin, mais à chaque nouveau pas, la lumière de Jésus-Christ nous montre la direction à prendre. Ah, tiens, il fait nuit. Ça y est. Les disciples ont bien marché, ça fait un moment qu'ils discutent avec Jésus. Le soir est tombé. On est au verset 28, dans Luc 24. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, à Emmaüs. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant: Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Oui, on a vu. Oui, le soir est bleu. C'est bon, c'est pas choquant, tout va bien. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Qu'ont-ils fait? Il se mit à table avec eux. Se mettre à table avec quelqu'un, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est symbolique. C'est un acte d'accord, un acte de réconciliation. C'est ce que Jésus vient apporter, la réconciliation. À l'époque, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, au Moyen-Orient, quand on est ennemi avec quelqu'un, on ne mange pas avec lui. Lorsqu'on se met à table avec quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui on est en accord, c'est un ami. Lorsque l'on était fâché et que l'on se réconcilie, eh bien, on vient souvent sceller cette réconciliation par un repas. C'est fondamental. D'ailleurs, ça a une influence, hein, sur notre langage. Quand on parle d'un copain, c'est quelqu'un avec qui on partage le pain, quelqu'un avec qui on est en proximité, en accord. C'est de là que vient ce terme de copain. C'est en lien avec cette réconciliation. Et Jésus est venu apporter cette réconciliation à ces deux disciples désespérés qui partaient. Non, revenez, on est de nouveau en accord ensemble. Lorsque dans le psaume 23, David dit, vous savez, ce psaume qui dit l'Éternel est mon berger, tout ça, tout ça. Il y a un verset, verset 5, qui dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Au départ, moi, je comprenais que ce passage voulait dire, ah, mais en fait, moi, je vais manger, mes adversaires seront morts devant moi, je vais être victorieux. Pas du tout. Ce verset, il veut simplement dire que David demande la réconciliation avec ceux qui étaient ses ennemis. Il demande que ses ennemis deviennent ses amis et qu'ils puissent partager le repas ensemble. Tu dresses une table avec mes adversaires en face de moi. On mange ensemble, on est réconciliés. Ça va à l'opposé de notre logique. Mais Jésus nous apporte ce même enseignement à plusieurs reprises dans les évangiles et même dans l'Apocalypse. Jésus a toujours ce même objectif de réconciliation. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, pardon, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, je serai réconcilié avec lui. » C'est une image très forte que Jésus donne dans ce verset. Là où il y avait la séparation, Jésus va amener la réconciliation. Amen. À cause de leur désespoir, ses disciples sur la route d'Emmaüs avaient besoin de cette réconciliation avec Jésus. Et le plan de Dieu, oui, est parfois différent, même très souvent très différent de ce que l'on avait imaginé. C'est vrai. Et au contact de Jésus, ses disciples sortent petit à petit de leur désespoir, qui était finalement causé par le fait qu'ils avaient une idée, mais qui ne s'est pas produite. Ils avaient un objectif, une espérance, mais qui n'était pas celle que Dieu avait prévue pour eux. Et ils ont pu comprendre dans quelle direction, au fur et à mesure du contact avec Jésus, quelle direction devait prendre leur espoir. Ils avaient besoin de passer par là, par ce contact, par ce cœur à cœur avec Jésus, pour pouvoir entrer pleinement dans cette réconciliation que Dieu propose. Quand on accepte cette réconciliation, il se passe ce qui s'est passé pour Moïse, il se passe ce qui s'est passé pour Élie, pour Saul de Tarse. Nos yeux s'ouvrent à de nouvelles révélations, à une nouvelle destinée. Ce nouvel espoir nous fait entrer sur un nouveau chemin. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe pour les disciples d'Emmaüs. On arrive au verset 30, toujours dans Luc 24. Donc Jésus se mit à table avec eux. Ensuite, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont quitté l'aveuglement que produisait leur désespoir. Et l'espoir en Christ leur a ouvert à nouveau les yeux. Et là, ils ont pris un virage à 180 degrés. Ils quittent Emmaüs et retournent à Jérusalem le soir même. Il faisait nuit déjà. Le chemin était plus difficile, mais ils étaient remplis d'une nouvelle lumière. Un nouveau feu brûle en eux. Alors, ils n'ont pas compris sur le moment. Et parfois, c'est vrai, on ne comprend pas tout sur le moment, hein. On a des révélations, des bouts, des choses, et on n'a pas compris 100%, mais on sait quand même la direction à prendre. Et Dieu nous révèle petit à petit ce que nous avons besoin de savoir pour continuer la route, pour faire parfois juste le pas d'après. Mais c'est suffisant le pas d'après, parce qu'une fois qu'on aura fait ce pas-là, on connaîtra le pas suivant, etc. Et parfois, continuer la route, ben, ça veut dire aussi faire demi-tour. C'est déstabilisant, c'est inattendu. Mais la suite du plan pour les disciples, elle ne se passe pas à Emmaüs. Ça se passe à Jérusalem. Parce qu'après, ils vont recevoir plein de choses à Jérusalem. Ils vont partir en Galilée, ils vont revenir à Jérusalem, il va se passer plein de choses. Mais il faut qu'ils retournent à Jérusalem avec les disciples. Et nous alors, c'est quoi la suite du plan pour notre vie? Jésus est venu pour nous sortir de notre désespoir et nous permettre d'entrer dans cet espoir avec lui. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu lui-même. On peut d'ailleurs remarquer une chose. Vous avez vu ce petit verset là à la fin? C'est marqué, ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Alors 11 parce qu'il y en a un qui s'est suicidé, malheureusement, Judas, qui a trahi Jésus, qui n'a pas supporté cette trahison. Et les 11, ben, ça veut dire que eux, ils n'en font pas partie. Ils ne sont pas parmi les apôtres, Cléopas et son acolyte. Ils ne sont pas apôtres, ils n'ont pas un titre, ils n'ont pas un statut. Ils n'ont pas une responsabilité particulière. Ils sont simplement des disciples de Jésus, comme chacun d'entre nous. Ce que ces disciples ont vécu, nous pouvons tous le vivre. Que nous passions par des moments de désespoir, ou pas, on n'est pas obligé de passer par des temps de désespoir, mais que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, Jésus s'est approché de chacun de nous. Jésus est venu à notre rencontre individuellement, personnellement, pour nous permettre d'entrer dans cette réconciliation avec Dieu. Nous avons un choix à faire. On ne peut pas rester neutre ou passif face à ce genre de choix. Alors bien sûr, oui, le premier choix qui est possible, c'est que l'on peut refuser la main tendue de Jésus. On peut rester dans les ténèbres. C'est vraiment une option. Et c'est parfois tellement plus confortable, parce que même la plus terrible des situations peut être plus confortable que l'inconnu. On dit qu'on s'habitue à tout. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureusement trop vrai. On ne devrait pas. Mais vous savez, rester dans les ténèbres, tôt ou tard, c'est un chemin qui conduit à la mort. C'est la Bible qui le dit, hein. Je ne suis pas interprète là, je cite. Mais il y a un deuxième choix. Oh, il est tellement meilleur. On peut aussi accepter cette réconciliation avec Jésus. On peut entrer dans sa lumière. On peut prendre ce nouveau chemin avec lui. Alors c'est vrai. Parfois, chaque nouveau pas, c'est une surprise. Et l'inconnu, ça fait peur. Oui. Mais au bout du chemin. Au bout du chemin, c'est la vie. Quelqu'un pourrait demander ce matin, un peu comme l'apôtre Thomas, dans Jean chapitre 14, verset 5, Thomas qui a des questions parfois intéressantes. Il dit ceci à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est une excellente question. C'est quoi le chemin? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la réponse. Jésus est très clair. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Est-ce que ça vous paraît assez concret? Un truc très concret. La prochaine fois que nous avons une décision à prendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous serons face à une situation qui est simple, même très simple. On peut faire ce que Jésus conseille ou on peut faire tout à fait autre chose. Quel est votre choix? Tout ce que nous avions besoin de savoir, nous le savons. Quel chemin prendrons-nous? Mais rappelons-nous, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ah Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que, oui, quelle que soit notre situation, et en particulier dans les situations de désespoir, c'est vrai, tu es venu à notre rencontre. Tu es venu Même si on ne te reconnaissait pas, même si nos oreilles ne pouvaient pas t'entendre et nos yeux ne pas te reconnaître, mais tu étais là. Tu ne nous abandonnes pas. Même quand on prend des mauvaises décisions, quand on prend des mauvaises directions, tu es là. Et tu viens attirer notre attention, tu viens continuer de nous parler, continuer de te placer devant nous pour venir te montrer, pour qu'on te voie enfin. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Rends-nous la vue, rends-nous l'ouïe, que nous puissions te voir, que nous puissions t'entendre. Seigneur, que tu puisses chasser ce désespoir qui obscurcit nos pensées. Merci tout pour tous mes frères et sœurs qui ne passent pas par ces temps de désespoir, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que, quelle que soit notre situation, tu es venu à notre rencontre, ce n'est pas pour rien. Tu es venu pour la réconciliation, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père, pour que nous puissions à nouveau avoir cette relation personnelle. C'est toi qui t'es approché le premier, Seigneur. Permet que nous puissions avoir ce choix de l'accepter. Accepter, Seigneur, de t'ouvrir la porte, accepter de venir à nouveau souper avec toi, à nouveau prendre part au repas avec toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta réconciliation, tellement besoin de pouvoir à nouveau connecter, d'avoir ce cœur à cœur avec toi. Seigneur Jésus, nous avons soif, soif de toi, soif de ta présence, soif de plus. Et c'est vrai, parfois le chemin il est difficile. C'est vrai, parfois on va devoir faire demi-tour. C'est vrai, parfois tu nous fais passer par des chemins qui vont de surprise en surprise et on ne sait pas quel est le pas suivant, Seigneur. Mais toi, tu nous montres. Par ta parole, par ta lumière, tu éclaires chaque pas. Seigneur, nous croyons que tu agis, que tu agis avec puissance. Et même si nos yeux nous montrent des obstacles, nous montrent une armée ennemie, toi, tu es plus puissant. Toi, tu dépasses ces obstacles. Toi, tu aplanis les montagnes. Toi, tu balais les armées ennemies. Tu nous préserves. Tu nous gardes. Et tu nous permets de marcher dans la tempête, de marcher au-dessus des eaux, de ne pas couler, mais de pouvoir survoler ces obstacles. Seigneur Jésus, ce n'est que ta puissance qui nous permet de le faire. Ce n'est que ton esprit qui vit en nous, qui nous permet d'avoir cette attitude, cette disposition de penser. Alors Seigneur, merci pour tout cela. Merci mon Dieu pour ta grâce. Seigneur, je veux te prier ce matin pour un frère, pour une sœur qui peut-être passe par ces temps de désespoir, qui peut-être ce matin passe par des temps vraiment de difficulté et qui se demande mais où tu es ? Seigneur, je crois que ce matin tu nous l'as bien fait comprendre, tu es là. Alors je veux te prier pour ce frère, pour cette sœur qui passe par ces temps. Viens lui ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, vraiment lui apporter cette vision de toi. Viens lui permettre de pouvoir être à nouveau à ton écoute. Viens lui permettre de pouvoir à nouveau connecter avec toi. Oui, c'est la douleur qui parfois l'empêche, parfois c'est la tristesse, parfois c'est tout un tas de problèmes, d'activités qui viennent nuire à cette relation. Mais toi, Seigneur, tu balayes tout ça. Viens, Seigneur, à nouveau dans la vie de mon frère. Aide ma sœur, viens frapper à la porte, s'il te plaît, mon Dieu. Aide-la à ouvrir. Aide-la à ouvrir à nouveau cette porte. Aide-la à ouvrir à nouveau cette porte pour qu'elle puisse être réconciliée avec toi. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Que ton nom soit élevé et glorifié. Amen.